Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonjour à tous. L'Europe juge disproportionné le recours à la force contre les manifestants à Moscou. Plus d'un millier de personnes interpellées alors qu'elles demandaient la tenue d'élections libres dans la capitale. Certains militants sont encore ce midi dans les locaux de la police. Autre manifestation contre le régime en place, cette fois à Hong Kong. Les militants pro-démocratie encore dans la rue aujourd'hui. C'est fait, le décret de la réforme de l'assurance chômage a été publié au journal officiel. Les nouvelles règles d'indemnisation entreront en vigueur le 1er novembre prochain. Parmi elles, l'instauration d'un système de bonus-malus. Et puis l'industrie musicale française se porte bien. C'est le numérique et tout particulièrement le streaming qui permet de doper la consommation de musique dans l'Hexagone. La Russie, pointée du doigt par l'Union européenne, Bruxelles dénonce les arrestations effectuées hier par la police à Moscou pendant une manifestation de l'opposition pour des élections locales libres. Près de 1400 personnes interpellées selon un dernier comptage. Ces détentions portent une fois de plus gravement atteinte aux libertés fondamentales, déclare la porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Selon Zoya Zvetsova, journaliste et militante des droits de l'homme, la plupart des personnes arrêtées hier sont toujours derrière les barreaux.
La majorité d'eux se trouvent toujours dans le bureau de police. Les leaders de l'opposition, les candidats au Parlement local de Moscou sont toujours aussi dans le bureau de police. Tous, ils sont convoqués au tribunal demain.
Ouais.
On peut attendre vraiment des répressions contre ces gens-là. On a l'impression que le pouvoir a peur de ces gens de l'opposition, a peur que si ces gens sont enregistrés pour les élections locales, ils peuvent gagner ces élections et ce pourrait être l'effet de domino. Et c'est ce que le pouvoir russe ne veut pas, parce qu'on sait très bien que l'autorisation d'utiliser la police et la férocité et la violence de police dans cette manifestation d'hier, et cette décision était prise à l'administration présidentielle, peut-être même par Poutine lui-même.
Zoya Zvetsova, journaliste russe, joint par Léo Vidal. Hong Kong, théâtre d'une nouvelle manifestation géante. Les militants pro-démocratie dans la rue aujourd'hui contre le régime. L'ancienne colonie britannique est plongée dans la pire crise politique de son histoire. Mouvement parti d'un rejet d'un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Il s'est désormais élargi à des revendications plus larges comme l'instauration du suffrage universel. Hier, de violents incidents ont éclaté à l'issue d'une manifestation interdite. Simon Le Plâtre se trouve au sein même du cortège en ce moment et aujourd'hui, les Hongkongais Simon sont encore nombreux à battre le pavé.
Oui, une fois de plus, des milliers, sans doute des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés dans le centre de Hong Kong. Et effectivement, malgré la variété des actions qui sont prévues, on sent une fatigue qui s'installe. Pas pour aller vers un renoncement, mais il est clair que les gens sont de plus en plus fatigués émotionnellement, frustrés de l'absence de réaction du gouvernement. Tout le monde dit que le gouvernement de Hong Kong est composé de marionnettes au service de Pékin. Donc les gens n'ont pas beaucoup d'espoir de voir la situation se débloquer pour l'instant. À l'instant, je discutais avec un couple de retraités dont la femme a éclaté en sanglots pendant notre interview. Elle fait une sorte de dépression d'après son mari parce que la violence de plus en plus marquée des manifestations lui fait très peur. Elle parlait des violences policières mais aussi des violences des mafias, les triades hongkongaises qui ont attaqué des manifestants et de simples passants dimanche dernier dans une station de métro. Ces violences ont profondément choqué les Hongkongais qui sont habitués à vivre en sûreté sur leur territoire. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont là disent qu'ils se sentent plus menacés que protégés par la police. Côté manifestants aussi, le niveau de violence augmente avec la frustration. Hier, à Yuen-Long, dans le nord de Hong Kong, les échanges ont été très musclés avec la police. Et dans la soirée, la police a répondu violemment aussi. Aujourd'hui, alors que je suis dans un rassemblement pacifique pour l'instant, en marge du rassemblement, des groupes de jeunes sont déjà en train de monter des barricades dans d'autres quartiers pour affronter la police.
À Hong Kong, Simon Le Plâtre pour France Culture. Ce n'est certainement pas un hasard du calendrier. L'Iran annonce aujourd'hui son intention de relancer un réacteur nucléaire, celui d'Arak. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne, Téhéran a commencé à revenir sur ses propres engagements. Mais cette nouvelle déclaration d'intention tombe le jour d'une réunion extraordinaire des représentants des pays signataires de l'accord nucléaire iranien. Une réunion à Vienne qui démarre à l'instant pour tenter de sauver un accord en perdition. Et dans ce bras de fer entre Téhéran et Washington, eh bien les Européens ont bien du mal à peser, comme nous l'explique Ardavan Amiraslani, avocat d'affaires franco-iranien.
Les Européens avaient une véritable fenêtre de tir sur l'Iran, c'est-à-dire faire en sorte à ce que l'accord nucléaire puisse être sauvé par justement des incentives économiques que l'Europe aurait pu donner aux Iraniens, notamment en achetant du pétrole iranien. Sauf que l'Europe a raté systématiquement toutes les étapes où l'Europe avait la possibilité de faire quelque chose sur l'Iran. L'Europe aujourd'hui n'a plus aucune crédibilité sur le volet économique. Cependant, le soutien de l'Europe est important politiquement pour les Iraniens. Tant que l'Europe est engagée sur le dossier nucléaire, ça empêchera la frappe américaine, ça empêchera la frappe israélienne. Incontestablement, c'est la France qui mène la danse au sein de l'Union européenne. C'est le rôle historique d'intermédiaire honnête, de honest broker, que le président français assume en espérant de pouvoir ramener les Iraniens dans l'accord nucléaire, empêcher les Iraniens de sortir graduellement de leurs engagements et faire en sorte à ce qu'il y ait une baisse de tension globale au sein du Moyen-Orient.
Les Français parlent de pause.
Ils parlent de pause, ils parlent de restrictions réciproques de manière à donner à la diplomatie une chance. Mais est-ce que les uns et les autres vont pouvoir aboutir à cette pause? Je ne le pense pas.
Ardavan Amir Aslani avec Christian Chesneau. Et par ailleurs, l'Iran juge provocateur la mise en place d'une force navale européenne dans le Golfe. C'est le gouvernement britannique qui a demandé de mettre en place cette mission après l'arraisonnement par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz. Mais Téhéran y voit un message hostile qui va accentuer les tensions dans cette région stratégique. En Libye, 5 médecins ont été tués dans une frappe aérienne contre un hôpital de campagne à Tripoli. Les hôpitaux près des zones de combat sont fréquemment la cible de frappes aériennes. Des bombardements que le gouvernement d'Union nationale attribue aux forces du maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est libyen mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale. Les nouvelles règles d'indemnisation du chômage sont donc publiées au journal officiel. Elles entreront en vigueur au 1er novembre prochain. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Alors parmi les mesures, l'allongement du temps de travail nécessaire pour ouvrir ses droits, la dégressivité des indemnités pour les hauts revenus, mais aussi la création d'un système de bonus-malus contre le recours aux contrats courts. Expliquez-nous Diane.
Cette mesure s'appliquera donc dans 7 secteurs d'emploi comme l'hébergement-restauration, l'agroalimentaire ou la gestion des déchets et uniquement dans les entreprises de plus de 11 salariés. Si l'entreprise se sépare de plus de ses employés que le reste de son secteur, sa cotisation sociale augmente. L'objectif, inciter les employeurs qui abusent des contrats très courts à rallonger leur durée. Mais cette mesure ne va pas assez loin selon Bertrand Martineau, économiste auprès de l'Institut Montaigne.
Alors c'est un système qui est très bien dans l'absolu, mais le gouvernement a été sans doute extrêmement prudent sur le sujet et ne l'a fait en fait qu'à titre un peu expérimental dans certains secteurs, avec une ampleur du bonus-malus qui est très faible, puisqu'il est de plus ou moins 1% de la masse salariale.
1% de la masse salariale seulement, certes, mais ce système de bonus-malus est très critiqué par le MEDEF. Pourtant, Bertrand Martineau souligne que toutes les entreprises ne seront pas perdantes.
Il ne s'agit pas de pénaliser ces secteurs. C'est vrai que le patronat a l'air de pousser des hurlements. Il oublie toujours que dans bonus-malus, il y a bonus aussi. Dans les 7 secteurs là dont on parle, il y a sans doute autant d'entreprises qui vont y gagner que d'entreprises qui vont y perdre. Ceux qui auront une proportion en fait de rupture du contrat de travail qui donne lieu à inscription à Pôle emploi inférieure à la moyenne du secteur, ils auront une baisse de la cotisation patronale d'assurance chômage.
D'après le gouvernement, dans l'ensemble de l'économie, plus du tiers des contrats des entreprises seront couverts par ce système de bonus-malus.
Diane Berger, souvent critiquée par les artistes, Internet n'est en fait pas que le règne du gratuit. La preuve, c'est bien la toile qui permet à la production musicale française de trouver son second souffle. Le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, vient de publier son bilan pour le premier semestre 2019. Le marché français est en hausse de 12,5% par rapport à l'an dernier, grâce surtout aux abonnements aux plateformes de streaming type Deezer ou Spotify, et qui sont en forte croissance. Alors Alexis Demeyer, dites-nous quels sont les artistes qui profitent le plus de cette embellie du marché de la musique.
Les grands vainqueurs sont deux frères, les rappeurs du groupe PNL, dont le single ODD a été le plus écouté au premier semestre. ODD, je la passe la tête, taille la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. De chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Viennent ensuite un autre rappeur, Nino, et son morceau Goutte d'eau. Puis la chanteuse belge Angèle avec son hymne féministe Balance ton quoi. Un féministe, mais pas moins dansant, le morceau Rapta. Un tube signé signée Eus l'Enfoiré, un jeune rappeur des Hauts-de-Seine. Et parmi les rares artistes non rap à se hisser en haut du classement, Les Enfoirés, justement. L'album 2019, Le Monde des Enfoirés, s'est écoulé depuis janvier à plus de 232 000 exemplaires.
On trace la chanson phare de la tournée 2019 des Enfoirés, un morceau signé Vianney. La météo et la fraîcheur qui s'installent en France, le mercure n'excédera pas les 27 degrés aujourd'hui autour de la Méditerranée, entre 20 et 22 degrés partout ailleurs et même 19 degrés sur les côtes normandes. Un ciel ensoleillé sauf sur la façade est avec des pluies faibles allant du Jura jusqu'aux Ardennes. C'est la fin de ce journal, une édition réalisée par Emmanuel Faucillon avec Jacques Hubert à la technique.